C'est toujours une joie de pouvoir visiter d'autres églises et d'avoir ce rappel de l'action de Dieu. Et parfois, on a une vision très locale de ce que Dieu fait, et c'est une bouffée d'air de voir justement que Dieu agit au-delà de notre église locale. Et vous êtes la preuve de l'œuvre de Dieu aujourd'hui. Donc je tiens à vous remercier pour votre présence. Donc une joie de visiter les églises, une joie toute particulière quand il s'agit de l'église de la Garenne-Colombes, une église que nous avons à cœur à la rue de Sèvres. Avant de lire la parole que nous étudierons ce matin, je vous invite à la prière. Notre Dieu, notre Père, alors que nous nous plaçons maintenant devant ta parole, notre prière est simple. Donne-nous d'entendre ta voix. Parle-nous par ta parole et brise en nous tout ce qui pourrait nous empêcher de t'entendre ce matin. Amen. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'évangile de Marc, au chapitre 4. Nous lirons les versets 35 à 41. C'est à la page 646 des Bibles que vous avez sur les chaises. Page 646, Marc, chapitre 4, versets 35 à 41. Marc, chapitre 4, versets 35 à 41. Ce jour-là, le soir venu, Jésus leur dit « Passons sur l'autre rive ». Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Un vent violent s'éleva et les vagues se jetaient sur la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à l'arrière sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir ?» Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi ». Le vent tomba et il y eut un grand calme. Puis il leur dit « Pourquoi êtes-vous si craintifs ? Comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se disaient les uns aux autres « Qui est donc cet homme ? Même le vent et la mer lui obéissent. » Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Ce que nous allons faire dans un premier temps, c'est de regarder au contexte. Puis ensuite, nous regarderons à la question fondamentale que posent les disciples. Puis nous terminerons en regardant à la réponse de Christ. Quelques mots sur le contexte. Ce jour-là, le soir venu, Jésus leur dit « Passons sur l'autre rive. Notre scène commence le soir. » Et Jésus décide de se retirer de là où il est. Si vous prenez l'évangile de Marc, vous verrez que régulièrement, Jésus fait le choix de s'éloigner de la foule qui le suit, qui se retire au loin. Parfois, il se retire parce que la foule venait vers lui pour les mauvaises raisons. Jésus ne souhaite pas que l'on vienne à sa rencontre uniquement pour voir des miracles. Ce qu'il souhaite avant tout, c'est annoncer la parole. Et annoncer la parole, c'est ce qu'il vient de faire tout au long du chapitre 4. Il vient de passer la journée entière à enseigner la foule. Et lorsque Jésus part, il leur laisse une question fondamentale. « Votre cœur est-il comme de la bonne terre pour recevoir mes paroles ? Êtes-vous de ceux qui écoutent la parole, qui la reçoivent ? Et en qui elle porte du fruit. » Jésus, ayant pu annoncer la parole, se retire de l'autre côté de la rive, à l'est du lac de Galilée. Jésus part de l'autre côté de la rive. Ce détail peut peut-être sembler anodin, mais ça ne l'est pas. Au contraire même, parce que de l'autre côté de la rive, c'est la ville de Gérasa. Gérasa, une grande ville païenne. Et s'il est vrai qu'il y avait une grande communauté juive dans cette ville, force est de constater que c'est bel et bien au territoire païen qu'il se rend ici. Et que Christ, dès ses versets, souhaite que les païens se tournent vers lui. Il vient d'annoncer la parole aux Juifs. Le voilà maintenant qui, d'une certaine manière, se tourne déjà vers les nations. Il est venu vers les Juifs, oui, mais pas seulement. Il est venu réconcilier l'humanité tout entière avec Dieu son Père. Les païens ont tout autant besoin d'entendre la parole que les Juifs. Eux aussi ont besoin de se positionner par rapport à elle, ont besoin de se positionner par rapport à lui, le Verbe incarné. Les contemporains de Jésus avaient besoin de se positionner par rapport à lui, tout comme nous avons besoin de le faire également. Qui est Jésus pour nous ? Qui est Jésus pour nous ? Partout où il va, Jésus continue de semer la parole. Comment sera-t-elle accueillie ? Il la sème aujourd'hui encore. Comment l'accueillons-nous ? Jésus décide de partir de l'autre côté du lac. Il monte dans une barque avec ses disciples et ils se mettent en route. Un vent violent s'éleva et les vagues se jetaient sur la barque au point qu'elle se remplissait déjà. La barque se trouve prise dans une tempête d'une violence rare. N'oublions pas que la plupart des disciples de Christ étaient pêcheurs de profession. La météo, ils connaissent. Les tempêtes, ils connaissent. Mais une tempête d'une telle violence, ils n'avaient jamais vu cela. Ce sont des navigateurs confirmés qui se retrouvent là à paniquer face à la tempête. Le bateau est ballotté par les flots. L'eau commence à remplir leur barque. Leur pire crainte est arrivée. Leur fin semble proche. À moins que Jésus n'intervienne. D'ailleurs, Jésus, où est-il ? Verset 38. Et lui, il dormait à l'arrière, sur le coussin. Les marins paniquent, au contraire de Jésus, qui lui dort paisiblement à l'arrière de la barque. Quel contraste saisissant, n'est-ce pas ? Les marins paniquent. Jésus lui dort. Et je comprends sa fatigue. Il vient de passer la journée à enseigner la foule. Et je ne doute pas que c'était exténuant. Jésus est fatigué. Et ce rappel de l'humanité de Jésus m'a fait du bien. Jésus est pleinement Dieu, mais pleinement homme également. Il connaît la faim, la soif, la fatigue. Lorsque nous sommes fatigués, soyons conscients que Christ connaît notre situation, l'ayant lui-même vécue. Et puisqu'il l'a lui-même connue, puisqu'il l'a vécue, il est aussi le mieux à même pour pouvoir nous conseiller dans ces moments-là. Jésus est fatigué, alors il s'allonge pour s'endormir. Je ne sais pas si c'est seulement moi ou si vous vous retrouverez dans ce que je vais dire, mais lorsque je suis exténué, mon premier réflexe, c'est de scanner le lieu où je suis pour voir quel serait le meilleur endroit pour m'allonger et dormir. Je pense que ce serait ici. Et je ne vous cache pas que si j'étais sur un bateau, je ne pense pas que je choisirais l'arrière du bateau, mais plutôt le milieu, parce que c'est là où ça tangue le moins. Mais Jésus sait bien mieux que moi, puisque c'est à l'arrière du bateau qu'il s'est endormi. Au sein de la tempête, les disciples sont paniqués, tandis que Jésus lui dort paisiblement. Un dernier détail qu'il nous faut voir avant de regarder à la question des disciples, puis à la réponse de Jésus. Qui prend l'initiative pour aller de l'autre côté de la rive ? Qui prend l'initiative ? C'est Jésus, verset 35. Jésus leur dit « Passons sur l'autre rive ». Jésus prend l'initiative, et Jésus seul. Suivre Jésus va parfois nous amener droit dans la tempête. Sans Jésus, les disciples n'auraient pas été pris dans cette dernière. Ils seraient restés bien au chaud, bien au sec. S'ils traversent le lac de nuit pour aller en territoire païen qui plus est, c'est parce que Jésus souhaite y aller. C'est bel et bien Jésus et lui seul qui prend l'initiative de partir. C'est bien Jésus qui les amène tout droit dans cette tempête. Surprenant, n'est-ce pas ? La vie avec Christ n'est-elle pas censée être plus simple que la vie sans Christ ? Quel intérêt pour moi de croire en Jésus si celui-ci nous amène délibérément dans la tempête ? Trop souvent, nous pensons que si nous croyons en Christ, Dieu nous bénira et nous amènera dans de verts pâturages. Et nous croyons parfois à tort que si nous passons par l'épreuve, c'est là Dieu qui nous punit par elle pour quelque chose. Ce n'est pas vrai. Et ces versets nous le rappellent. Parfois, suivre Christ va nous amener droit dans la vallée de l'ombre de la mort. La tempête par laquelle passent les disciples n'est pas liée à une quelconque désobéissance de ses disciples. Les disciples sont obéissants, là n'est pas la question. Si Jésus amène délibérément ses disciples droit dans la tempête, c'est parce qu'il a quelque chose à leur faire comprendre. Et seule la tempête va leur permettre de comprendre cela. Jésus va mettre la foi de ses disciples à l'épreuve, et cela pour qu'ils comprennent que leur cœur n'est pas encore prêt, pour qu'ils comprennent qu'ils ne croient pas encore pleinement en lui. Seule la tempête va leur permettre de se rendre compte de cela. Le bateau est ballotté par les flots, l'eau commence à remplir le bateau, leur fin est proche. Et alors qu'ils se croient perdus, dans un dernier élan d'espoir, les disciples se tournent vers Christ. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir. Jésus, nous sommes perdus, cela ne te fait rien. Maître, ne te soucies-tu pas de nous ?» Quelle question dure, n'est-ce pas ? Ne te soucies-tu pas de nous ? N'oublions pas notre privilège d'avoir vu le tableau dans son ensemble. Nous savons que Christ se soucie d'eux. Nous savons que Christ cherche, au travers de cette tempête, à les amener à une juste compréhension de sa personne. Nous savons qu'il ira jusqu'à la croix parce qu'il se soucie de nous. Mais mettons-nous à la place des disciples. C'est la fin pour eux, du moins le pensait-il. Et nous, alors ? Ne te soucies-tu pas de nous ? Comment peux-tu rester là à dormir alors que nous allons mourir ? Voilà la question des disciples, question qui révèle toute leur incompréhension. Jésus a accompli des guérisons miraculeuses, ce qui montre qu'il s'intéresse à l'être humain. Mais voilà que nous sommes sur le point de mourir, et Jésus lui continue de dormir sans se soucier de notre triste sort. Ne te soucies-tu pas de nous ? Ne te soucies-tu pas de nous ? Et ne nous trompons pas, cette question difficile, je crois que tous, nous nous la sommes posée ou nous nous la poserons un jour face à l'épreuve. Dieu, ne te soucies-tu pas de nous, moi ? Les flots de la vie sont parfois, sinon souvent, tumultueux, n'est-ce pas ? Les épreuves sont venues et telles une tempête violente, elles ont ballotté tout notre être. Maladie, persécution, deuil, solitude, une vague après l'autre. Et alors que vous venez seulement de sortir la tête de l'eau, vous voilà à nouveau submergé par une autre vague. Peut-être en êtes-vous aujourd'hui même à vous poser cette question des disciples. Te soucies-tu vraiment de moi, de nous ? Je crois qu'il y a là l'une des questions les plus fondamentales qui soient. Mais aussi l'une des plus dures. Parce que cette question, nous ne nous la poserons qu'au sein de l'épreuve. Lorsque tout va bien, nous ne serons pas réticents à reconnaître le souci de Dieu à notre égard. Mais dans la tempête, c'est bien différent. Te soucies-tu vraiment de nous ? Un deuil, la maladie, et votre vie se retrouve sans dessus-dessous. Et pourtant, vous aimez Jésus de tout votre cœur. Mais voilà que cette épreuve est venue avec toute sa force et toute sa violence. Les flots vous submergent et vous amènent à vous poser cette question. Jésus, ne te soucies-tu donc pas de moi ? Je suis perdu, la mort est devant moi, cela ne te fait vraiment rien ? Je prie que tu éloignes de moi cette épreuve. Mais la voilà qui semble me suivre tellement nombre, la voilà qui s'accroche à moi comme un vautour sur sa proie. Père, je suis à genoux devant toi. Ne te soucies-tu pas de moi ? Ou peut-être l'épreuve a-t-elle touché votre époux, votre épouse, vos frères, vos sœurs, ou pire encore, vos enfants ? La question reste la même. Est-ce que cela ne te fait rien ? Ne te soucies-tu pas de nous ? Père, je ferai tout ce que tu veux si tu éloignes cette épreuve de moi. Et Dieu qui ne semble pas répondre, est-ce que tu t'intéresses à moi ? Je suis là, Père, est-ce que tu m'entends ? Est-ce que tu m'as oublié ? Maître, cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir. Verset 39. Jésus se réveilla. Il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Le vent tomba et il y eut un grand calme. Les disciples réveillent Jésus. Et dans sa grâce, par sa toute-puissance, Jésus démontre qu'évidemment, il se soucie de leur sort. Sans aucun doute, Jésus se soucie de ses disciples. C'est parce qu'il se soucie d'eux qu'il est dans la barque avec eux. C'est parce qu'il se soucie de nous qu'il s'est incarné. Parce qu'il se soucie du juif, il est allé vers lui. Parce qu'il se soucie du païen, il va vers lui. Il se soucie du malade comme du bien portant, du riche comme du pauvre, de l'homme comme de la femme, du vieillard comme de l'enfant encore à naître. Christ se soucie de l'être humain. Évidemment, Christ se soucie de nous. Et c'est parce qu'il se soucie de nous qu'il est allé jusqu'à la croix. Parce qu'il nous aime, parce qu'il souhaite notre bien, il va se charger de nos fautes à la croix. Parce qu'il souhaite pour nous la vie éternelle, il va mourir à notre place. Parce qu'il veut nous ramener dans la présence de son Père, lui, l'innocent, va prendre la place du coupable. Même à ceux qui le clouent sur la croix, parce qu'il se soucie d'eux, Christ dira à son Père, « Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Parce qu'il se soucie d'eux, Jésus se soucie de ses disciples. Et si Christ les a amenés dans la tempête, c'est justement afin qu'ils comprennent cela. Silence, tais-toi. Le vent tomba. Il y eut un grand calme. Comprenez à quel point je me soucie de vous. Vous doutez de cela, je vais calmer l'orage pour vous le faire comprendre. Jésus parla au flot et au vent. Et d'un coup, la tempête n'est plus. Un grand calme. Les flots qui étaient déchaînés se sont maintenant apaisés. Le vent qui s'abattait sur la barque au point de la faire pencher dangereusement a perdu tout son souffle. Un grand calme. En un instant, au son de sa voix, tout a changé. Oui, Jésus a autorité même sur les éléments de la nature. Tout au long de l'évangile de Marc, nous voyons Jésus enseigner avec autorité. Nous le voyons guérir avec autorité. Le voilà maintenant qui prend autorité même sur la nature. Par ce miracle, Jésus dévoile encore plus son identité. Seul le Créateur, seul Dieu pouvait arrêter la tempête. Jésus annonce, il rappelle au moyen de ce miracle qu'il est Dieu. Au travers de ce puissant miracle, nous n'avons là même qu'un infime aperçu de sa toute-puissance. Pour Jésus qui est Dieu, Jésus qui est celui par qui tout a été créé, arrêter la tempête n'est rien. Il peut bien plus encore. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu incarné. Le vent et les flots non seulement reconnaissent l'autorité de Christ, mais s'y soumettent. Le contraste entre l'attitude des éléments de la nature et celle des disciples n'est que d'autant plus grand. Le vent et les flots reconnaissent l'autorité de Christ et s'y soumettent, tandis que les disciples, eux, ne croient pas encore en lui. Eux qui vivaient avec Christ, qui l'accompagnaient, qui le voyaient, qui l'entendaient, n'avaient pas encore compris qui il était. Mais c'est justement parce qu'ils ne croyaient pas encore en lui que Christ les a amenés dans la tempête. Cette grande tempête est venue comme une mauvaise surprise pour les disciples de Jésus, oui, mais elle n'était certainement pas surprise pour Christ. Lorsqu'il s'endort, il sait très bien que c'est tout affolé que les disciples le réveilleront. Christ les amène dans cette tempête, afin qu'enfin ils croient en lui. Le but de Christ au travers de cette tempête n'est pas de critiquer ou de condamner les disciples, mais au contraire de les amener à une juste compréhension de sa personne. Si Jésus les amène dans cette tempête, c'est parce qu'il les aime, parce qu'il se soucie d'eux. Il souhaite ce qu'il y a de meilleur pour eux, comprendre qui il est. Avant la tempête, les disciples n'avaient pas compris qui était réellement Jésus. Seule la tempête leur permet de se poser réellement la question. Les miracles que Jésus accomplit annoncent quelque chose de grandiose au sujet de sa personne. Par ce miracle, Jésus amène les disciples à se poser cette question. Qui donc est Jésus ? Qui donc est Jésus ? C'est ce qu'ils se demandent au verset 41. Ils se disaient les uns aux autres, qui est donc cet homme ? Même le vent et la mer lui obéissent. Si Jésus a amené ses disciples dans la tempête, c'est pour qu'ils comprennent que Dieu se soucie d'eux, qu'ils croient qu'il est unique, qu'il est le Fils de Dieu, Dieu incarné. Évidemment, Christ se soucie d'eux. Le miracle de Christ est impressionnant. Mais ne faisons pas l'erreur d'oublier de regarder à la signification profonde de ce miracle, la personne même de Christ. Je loue le Seigneur pour les versets 40 et 41 que je vais relire. Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs ? Comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se disaient les uns aux autres, « Qui est donc cet homme ? Même le vent et la mer lui obéissent. » Si ces versets n'étaient pas présents, nous risquerions de croire que l'application pour notre quotidien serait « Dans l'épreuve, il faut prier et Jésus va calmer notre tempête. » Et quand bien même il peut le faire, il a la puissance pour le faire, il a l'autorité pour le faire. Vous savez déjà fort bien que ce n'est pas toujours ainsi que Dieu agit. Parfois Dieu nous dira oui et nous libérera de l'épreuve. Parfois Dieu nous dira pas encore. Parfois Dieu nous dira non. Mais l'enseignement pour nous aujourd'hui est beaucoup plus profond que cela. Nous ne pouvons pas nous arrêter au miracle et demander à Christ qu'il continue d'accomplir ses miracles pour nous cette fois, sans nous poser les bonnes questions, sans regarder à la personne de Christ, sans nous remettre en cause. Qui donc est cet homme ? Même le vent et la mer lui obéissent. Les disciples de Christ se posent la bonne question. Le but de tout miracle de Christ est d'amener à la réflexion. Pour comprendre ce que nous pouvons en retirer pour nous aujourd'hui, il nous faut arriver à bien comprendre le but de ce miracle. Dieu souhaite nous amener toujours plus près de lui. Il souhaite nous amener toujours plus près de lui. Il souhaite nous amener à une meilleure compréhension de la personne et de l'œuvre de Christ. Ce que Dieu souhaite pour nous est parfois différent de ce que nous voulons, n'est-ce pas ? Nous, nous préférons le confort, le bien-être apparent. Dieu, lui, veut transformer nos cœurs. Nous ne voulons lui donner qu'une petite partie de notre être, de notre vie. Lui la veut tout entière. Parfois, sa manière de nous libérer de l'épreuve n'est pas de retirer cette dernière, mais de nous équiper pour l'affronter, de donner à nos cœurs une paix qui dépasse toute intelligence. Tous, nous nous croyons meilleurs que ce que nous sommes vraiment. Tous, nous pensons avoir un cœur de bonne terre pour Dieu. Mais il y a bien plus de ronces et de mauvaises herbes, nous le croyons. Grâce à cette tempête, il a été rendu évident que les disciples ne croyaient pas encore pleinement en Jésus. De même, au sein de l'épreuve, notre vraie disposition de cœur sera révélée. Nous avons bien plus besoin de Jésus que nous ne voulons l'admettre. Jésus parfois va nous amener dans la tempête pour nous ramener plus près de lui. Dieu se soucie de vous. Dieu se soucie de la veuve, de l'orphelin, du pauvre, de celui qui a tout perdu, de celui ou celle qui se sent seul. Dieu se soucie de vous. Vous passez par la maladie, Dieu se soucie de vous. Vous passez par la solitude, Dieu se soucie de vous. Vous passez par la persécution ou l'injustice, Dieu se soucie de vous. Vous passez par des problèmes de couple, Dieu se soucie de vous. Il entend vos larmes, il connaît votre fardeau, il se soucie de vous. Christ se soucie de nous. Dans notre texte, Christ va le prouver une première fois envers ses disciples en calmant la tempête. Mais il va le prouver une seconde fois un peu plus tard dans l'évangile, en passant lui-même par une tempête bien plus grande encore. Pour faire comprendre son identité à ses disciples, Jésus les amène dans la tempête. Pour nous prouver son identité, Christ ira encore plus loin en allant lui-même et lui seul dans une autre tempête. Christ passera par la tempête de la croix. Lui prendra sur lui les flots mugissants de la condamnation du péché. Il passera par le tonnerre de la colère de Dieu son Père, afin de nous donner ce calme, ce repos éternel, parce qu'il se soucie de nous. Dans cette tempête, face à une mort possible des disciples, Christ apaisera les flots. Face à notre mort spirituelle certaine, Christ passera lui-même par la violence des flots. Il passera par la mort pour nous donner ce repos. Parce qu'il se soucie de nous, il ne s'est pas soucié de sa propre personne. Lui qui aurait dû connaître le calme de la présence de Dieu est passé par le tourbillon de la mort parce qu'il se soucie de nous. En passant par la croix, Christ a prouvé que Dieu son Père se soucie de l'être humain. En passant par la croix, il a prouvé qu'il se soucie de nous. Au sein de notre épreuve, il nous faut regarder à la croix. Lorsque nous nous posons cette question, « Est-ce que tu te soucies vraiment de moi ?» Regardons à la croix, preuve ultime de l'amour de Dieu, preuve ultime de sa bonté, preuve ultime de sa justice, preuve ultime de son souci pour l'être humain. Évidemment, Christ se soucie de nous. Et c'est parce qu'il se soucie de nous qu'il est allé jusqu'à la croix, parce qu'il nous aime, parce qu'il souhaite Il souhaitait notre bien, il s'est chargé de nos fautes à la croix. Parce qu'il souhaitait pour nous la vie éternelle, il est mort à notre place. Parce qu'il souhaitait nous ramener dans la présence de Dieu son Père, lui l'innocent a pris la place du coupable. Dieu se soucie de nous. Christ en est la preuve par excellence. Amen.